Que faire quand les réglementations environnementales dérangent? Très simplement, les contourner. C'est la tentation de multinationales canadiennes, aujourd'hui gênées par la réglementation européenne. À charge de revanche, les entreprises européennes verraient s'ouvrir à leur profit le marché de ce que sont aujourd'hui les services publics canadiens. C'est le contenu de l'accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne en cours de négociation. Plusieurs députés européens, Attaque Québec, AP2E, se mobilisent. Une mobilisation qui passe par l'information du citoyen, le premier concerné.
Une maille à l'endroit, deux mailles à l'envers, et c'est comme ça que le bât blesse. D'un côté, l'Union européenne qui impose des normes anti-OGM, des normes environnementales qui interdit l'amiante. De l'autre, la même Europe en train d'élaborer un accord de libre-échange autorisant les mêmes OGM et autres amiantes à les comprendre.
Les accords internationaux, c'est un processus un peu compliqué.
Marie-Christine Vergia, députée européenne.
En principe, c'est le Conseil des ministres qui donne mandat à la Commission pour négocier un accord. En l'occurrence, c'est la France qui a souhaité que, sous le moment de la présidence française, qu'on remette ce chantier sur la table. Donc après, la commission négocie et elle rend compte régulièrement, quand on lui demande, au Conseil des ministres et au Parlement.
L'Europe, d'accord. Mais le fautif, le tentateur originel, le Canada.
C'est le Canada.
Claude Vaillancourt, co-président d'Attaque Québec.
C'est le Canada qui a proposé à l'Europe cet accord. Et l'Europe, en premier, semble-t-il, et ça je le tiens d'un négociateur, n'était pas intéressée.
Le motif, le marché nord-américain n'offrirait plus au Canada les mêmes débouchés. Il doit donc trouver un autre marché au nord, car susceptible de lui acheter ses produits.
C'est que les agriculteurs canadiens qui fabriquent des OGM, c'est-à-dire qui font l'agriculture avec des OGM, veulent avoir accès au marché européen.
Mais pourquoi l'Europe, elle, se montre-t-elle désormais intéressée alors qu'elle ne l'était pas auparavant?
L'Europe s'est intéressée quand les négociateurs canadiens ont dit qu'ils ouvraient le marché des provinces. Or, ce sont les provinces au Canada qui administrent le plus de services publics. Par exemple, la santé, l'éducation, d'autres secteurs comme l'électricité, ça relève des provinces. Alors, à ce moment-là, c'est devenu extrêmement intéressant pour les Européens. Dans cet accord-là, les négociateurs des provinces négocient directement avec les négociateurs européens, donc comme presque de pays à pays, finalement. Et à ce moment-là, ça permet d'aller plus vite, effectivement, et ça permet aussi un plus grand accès au marché canadien de la part des Européens.
En gros, c'est l'occasion qui fait le larron. D'un côté, le marché de ce que sont aujourd'hui les services publics canadiens. De l'autre, eh bien, au diable les normes sanitaires et environnementales européennes, c'est donnant, donnant.
Qu'un produit soit vendu de façon très libre, c'est une chose, mais que le produit lui-même ne réponde plus aux normes, on n'est plus dans le libre-échange, là, on est dans le détournement des règlements européens.
Ah, ben ça, pour un homme d'affaires, je ne suis pas sûr qu'il raisonne comme vous. Lui, il va voir ça principalement comme un obstacle au commerce. Moi, j'ai un produit à vendre, vous avez des normes, vous vous empêchez de vendre mon produit.
Si tu m'empêches de vendre, je te fais un procès que je gagne, parce que j'ai plus d'argent que toi. Une fois cet accord économique et commercial global ratifié entre l'Union européenne et le Canada, c'est ce que les entreprises pourront opposer aux États.
Ce que les Canadiens veulent proposer, justement, pour faire baisser ces normes, c'est un chapitre sur l'investissement qui permet aux entreprises de poursuivre les gouvernements européens si, par des normes, par des lois, par des réglementations, on les empêche de réaliser des profits.
Quand pourront-elles le faire? Les choses semblent aller assez vite.
Habituellement, les accords prennent un peu plus de temps. Alors pourquoi? Est-ce qu'il y a du lobbying? Est-ce qu'il y a des pressions? Je ne le sais pas.
Annick Girardin, députée de Saint-Pierre-et-Miquelon, rapporteure à l'Assemblée nationale de la Commission européenne sur l'accord Canada-Union européenne.
Mais ce que je sais, c'est qu'on va être dans le timing et que pour fin 2011, il est possible que cet accord soit signé.
En affaires, l'Atlantique n'est pas la mer à boire, tout peut très bien circuler, sauf parfois l'information.
Moi, j'ai découvert cet accord parce que j'ai travaillé sur l'Union européenne et les régions ultra-périphériques comme la mienne, qui sont des PTOM, des territoires associés à l'Europe. Et j'ai découvert effectivement cet accord de libre-échange UE-Canada qui concerne directement mon territoire, qui est Saint-Pierre-et-Miquelon. Saint-Pierre-et-Miquelon est un département d'outre-mer au large du Canada, qui est donc une tête de pont de la France en Amérique du Nord, mais aussi de l'Europe en Amérique du Nord. Et nous sommes largement concernés par cet accord, alors qu'on n'a jamais été ni associés, ni informés, et que ça aura des conséquences importantes si cet accord était signé en l'état pour Saint-Pierre-et-Miquelon, tant d'un point de vue économique qu'un point de vue social.
Vous êtes en train de me dire que vous avez découvert un accord un peu par hasard et qu'il est en train de passer quasi inaperçu.
Effectivement, j'en ai pris connaissance à travers un autre type de travail que je menais avec l'Union européenne. Oui, il est passé inaperçu à mes yeux et il est passé inaperçu aux yeux de beaucoup de gens et son contenu est complètement méconnu aujourd'hui. C'est une question qui se pose pour Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est une question qui se pose pour la France, c'est une question qui se pose sur l'Union européenne. Quelles sont les conséquences de cet accord et est-ce qu'il faut effectivement rapidement pouvoir avoir accès à l'ensemble des informations et peut-être faire de nouvelles propositions.
Contrairement à la carte postale, le Canada n'est pas tout blanc. Catherine Caron, rédactrice en chef de la revue Relations.
Vous allez vous associer avec un pays qui est un des pires pollueurs de la planète.
Et pour un pays du Nord, il a même quelques services publics singulièrement exotiques.
Nous, on a des monopoles d'État extrêmement importants et qui satisfont beaucoup la population. Alors, par exemple, des choses aussi différentes que l'électricité, la santé, la distribution d'alcool, certaines assurances automobiles. Donc ça, c'est des services publics qui sont très appréciés.
Vous avez un service public de l'alcool?
Oui, c'est-à-dire la vente d'alcool, c'est un service public. Ça s'appelle la Société des alcools du Québec et c'est un monopole d'État. Bon, c'est très bien comme ça parce que ça apporte beaucoup de sous pour l'économie québécoise. Donc c'est extrêmement rentable. Et le service est très bon aussi, je pense qu'on peut le dire.
On devient sérieux.
Donc c'est ça, pour nous, on sent que c'est une menace réelle parce que c'est clair qu'il y a des grandes multinationales européennes qui sont intéressées à ces services-là. De la part des Européens, il y a de quoi être inquiet aussi parce que ce que les Canadiens reprochent à l'Europe, ce sont ces normes trop strictes. Ça peut aller aussi bien dans l'importation des minerais, ça peut aller aussi dans le domaine des OGM, de la viande aux hormones, tout simplement. Donc, ce que les Européens ne veulent pas, eh bien, ça risque très bien de s'imposer par cet accord. Vous savez que les grandes compagnies comme Monsanto, qui fabriquent des OGM, essaient depuis des années d'imposer leurs produits à l'Europe et cet accord-là, on sait que c'est un sujet de négociation. Ça, c'est très clair.
La logique est celle de la cour de récréation. Je viens faire chez toi les saletés que je n'ai plus le droit de faire chez moi. Quelles entreprises? Là, pas trop de surprises.
Par exemple, Bombardier, SNC-Lavalin, Suez, Total. C'est des grandes entreprises. Je pense qu'on les connaît, on les connaît assez bien. Ces grandes multinationales aussi qui vivent beaucoup de l'exportation.
OGM, Amiante et compagnie. Tout Européen aurait intérêt à se renseigner, car poursuite de ces accords au cours de ce mois de juillet.
Et nous, ce qu'on souhaite, c'est un éveil de la société civile, c'est-à-dire que cet accord-là soit vraiment connu au Canada et au Québec. Il y a une coalition, un réseau qui s'appelle un réseau pour un commerce juste, qui s'intéresse beaucoup à la question, qui cherche à faire connaître cet accord-là. Il y a aussi des centrales syndicales qui commencent à s'y intéresser. On espère qu'il va y avoir aussi un mouvement fort de la société civile européenne. Et j'ai l'impression que si, d'une part et d'autre de l'Atlantique, il y a vraiment ce mouvement-là, un mouvement vraiment significatif, alors à ce moment-là, cet accord-là, eh bien, peut-être ne verra pas le jour.
Vous avez des alter-ego anglophones?
Au Canada, anglais, ils sont très, très actifs. Ils sont plus nombreux, mais en même temps, ils sont plus sensibles aux questions des accords de libre-échange. Ça, il faut le dire, pour des raisons historiques, qu'en général, les Québécois sont plus favorables. Les Canadiens anglais, enfin, la gauche canadienne-anglaise est plus consciente des dangers. C'est clair aussi qu'il va falloir sensibiliser les gens au Royaume-Uni et en Allemagne. Donc, on espère qu'il va y avoir aussi des réactions parce que c'est très clair aussi que cet accord-là concerne, parmi les pays européens, là, principalement la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne, c'est ça, c'est là où c'est les pays qui ont le plus d'accords, le plus de liens commerciaux avec le Canada. C'est aussi les pays qui ont les plus grandes multinationales européennes, donc un peu l'Italie aussi.
Un premier site à consulter, Agir pour une économie équitable.